je vais pas vous étonner en disant que j'en pense le plus grand mal. Bah, écoutez, mais je vais essayer de vous dire pourquoi. D'abord, revenir à la question. Les musulmans en France, c'est peut-être pas toujours le centre de tous les débats, et je pense qu'il ne faut pas faire une fixation sur cette question. C'est du moins ma position. Vous demandez si la laïcité est menacée. Alors, les propos du président de la République, moi je vous répondrai que finalement je ne suis pas tellement émue. Non pas que je sois d'accord avec ce qu'a dit le président de la République, mais je crois qu'il a déjà renoncé. Si vous avez lu l'interview qu'il a donnée au Figaro entre les deux. Excusez-moi, madame, je parle comme je peux parler, je suis en fin d'une journée fatigante, je ne peux pas faire autrement. D'accord, voilà. Je pense que le président de la République est déjà revenu sur l'idée que l'on devait modifier la loi 1905 dans l'interview qu'il a donnée au Figaro entre les deux tours des municipales, si vous l'avez lu. Il a dit, finalement, on n'y touche pas. Alors, dans la réalité des choses, la loi de 1905, on y a très souvent touché. Très, très souvent, des dispositions législatives, vous n'avez qu'à regarder ça dans un juriste classeur, vous avez entre parenthèses, loi du temps, loi du temps, loi du temps, une des moins bonnes étant certainement la loi du 25 décembre 42 que personne n'a jamais abrogée. Je crois que le président de la République a fini par comprendre dans ce domaine, comme peut-être dans d'autres domaines, qu'il a annoncé un peu vite des réformes sur le substrat de ses fondements idéologiques personnels, mais il s'est quand même retrouvé à la tête d'un pays comme la France, et il a compris que ça, vous ne pouvez pas le faire. Et je crois que politiquement, je me trompe peut-être, mais je crois que, après ce qu'il a dit au Figaro, la question est réglée. On ne refera pas l'armature. Bien sûr qu'on peut toucher ici ou là, il faut être vigilant sur un certain nombre de questions, touchant notamment aux associations cultuelles, à mon avis, mais je ne crois pas du tout qu'il reverra l'édifice de la loi 1905, et il a compris quelque chose qui, pour moi républicaine, comme vous l'avez dit, est une évidence, ce n'est pas une loi. C'est une loi, formellement, juridiquement, c'est une charte de paix civile. Et j'y reviendrai dans un deuxième temps. Alors, à mon avis, ce qui a beaucoup plus menacé la laïcité dans notre pays, c'est l'affaire du foulard. Parce que, personnellement, j'étais défavorable à ce qu'il y ait une loi pour régler l'affaire du foulard, parce que je crois que dans cette affaire, et là je parle un peu comme technocrate, si je puis dire, enfin, habitué aux décisions administratives et politiques, l'État n'a pas fait son devoir. Il fallait arrêter l'affaire à la source. Il fallait que les proviseurs se sentent soutenus pour empêcher certaines dérives, et que le ministre dise « vous mourrez derrière vous ». Il n'y avait pas dans ce pays 20 établissements, sur 40 000 établissements scolaires, où la question se posait. Donc il fallait arrêter les choses à la source, mais ce qui s'est produit, c'est que les enseignants, l'équipe éducative, comme on dit maintenant, se sont sentis désarmés parce qu'ils ont eu des attaques de presse, et parce que le ministre de l'époque, qui était Lionel Jospin, d'ailleurs, ne les a pas soutenus. Alors il a demandé au Conseil d'État un avis, et je le dis clairement, personnellement, je pense que cet avis était très flottant, très flou. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu finalement y revenir par la loi. Je crois que si on avait arrêté les choses à la source, on ne serait pas posé la question de savoir s'il y avait d'immenses implications politiques derrière le foulard. Je crois qu'il y avait, j'ai parlé à beaucoup d'acteurs à cette époque-là, je crois qu'il y avait un foulard agressif adolescent, y compris des adolescentes contre leurs parents d'ailleurs. Je crois qu'il y avait un foulard oppressif, des parents qui voulaient que leurs filles, ou des frères, qui voulaient que leur sœur porte le foulard. Et puis je crois qu'il y a eu, ça a couru comme un feu follet, ce problème identitaire qui se pose dans nos banlieues à des populations musulmanes qui ne sont pas les mieux traitées sur le plan social et économique, il faut bien le dire, et qui surtout, au plan international, sont la caisse de résonance en France, qui est le pays qui a la plus grande communauté musulmane d'Europe, sont la caisse de résonance de la situation, je le dis franchement, à mes yeux, terrible, qui est faite aux pays arabes dans le monde avec la complicité des puissances occidentales. Et aujourd'hui aussi, hélas, de la France. Voilà, je dis les choses comme je les pense. Donc, je crois que pour ma part, il fallait arrêter l'affaire du foulard à la base en responsabilisant les équipes éducatives et les proviseurs. Mais à partir du moment où les médias se sont emparés de l'affaire, c'était fini, c'était perdu. On est dans tous les débats à la fois. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et je constate quand même qu'à la suite de cette loi, puisque nous jugeons les contentieux quelques années après qu'ils se soient, ou quelques mois après qu'ils se soient noués, eh ben, le paysage est quand même assez paisible. Je dois reconnaître, bien que n'ayant pas été favorable à la loi, je dois dire qu'il n'y a plus grand-chose. les choses se sont quand même beaucoup calmées. Donc le danger n'était quand même pas si considérable. Mais il me semble qu'avec l'affaire du foulard, l'exécutif a vacillé et a essayé un peu de se défausser de sa responsabilité, qui est appliquée clairement, qui est d'appliquer clairement en France le principe de laïcité, qui est quand même garanti par la Constitution. Alors, sur ce point, les menaces de laïcité, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans cet article que vous avez fait l'honneur de publier, qui était une intervention dans un autre colloque. Je crois que la laïcité, si elle est menacée par d'autres choses que par les déclarations politiques plus ou moins bien contrôlées. Je crois qu'elle est menacée par les crispations communautaires et identitaires, qui sont une chose terrible, parce qu'un pays comme la France avait donné un modèle de respiration, un modèle d'intégration qui avait ses défauts, c'est entendu, mais regardons ce que sont les autres modèles. Il avait offert une sorte d'idée universelle, d'un message universel de laïcité, qui était et de républicanisme, qui était un message de paix. Je crois que la montée des communautarismes, des crispations identitaires, ethno-religieuses, éventuellement régionalistes, sont quelque chose qui est une menace plus grave que des déclarations du pouvoir politique. Dans un pays comme nous, où on circulait en paix, et où qu'on soit breton, alsacien, corrézien, tout ce que vous voudrez d'autre, tout ça, et naturellement protestant, catholique, juif ou athée, on n'a pas encore beaucoup parlé des athées à présent, tout ça circulait bien, et les gens vivaient en paix leurs différences parce qu'il y avait une sorte d'indifférence du droit organisant la possibilité pour leurs différences d'exister. Ça c'était un modèle qui est sans doute un petit peu atteint aujourd'hui. Je crois qu'une autre chose qui atteint la laïcité aujourd'hui, c'est le statut du savoir qui est menacé, y compris dans les pays développés, je pense au créationnisme américain. Le statut du savoir est menacé par aussi le grand retour des sectarismes. Mais ça, c'est un sujet à soi tout seul. Et puis, je crois que la dernière chose qui menace la laïcité, c'est quand même la montée de la société marchande. C'est la montée du consumérisme. Et sur ce plan, d'ailleurs, les églises conscientes des effets désastreux de la mondialisation libérale et marchande pourrait très bien donner la main aux athées. Enfin, il pourrait y avoir un espace de dialogue laïque autour de la manière dont les consciences, finalement, ne croient plus qu'au dieu de l'argent, pour dire les choses un peu rapidement et pour aller vite. Alors ça, c'est une menace pour la laïcité, dans la mesure, car aucun d'entre nous ne l'a défini, nous n'avons pas eu le temps de le faire, mais dans la mesure où la laïcité, c'est quand même un élan vers l'égalité de tous. Vous êtes différents, mais nous, État, nous sommes indifférents à vos différences, donc on les laisse s'exprimer, on les laisse être, et surtout, on n'organise pas, et là je dis mon désaccord, dans l'espace public, d'éternels débats sur les différences. Je crois pour ma part que c'est quelque chose de tout à fait dangereux. Alors, deuxième et dernière conclusion, plutôt. Vous l'avez compris, je suis très défavorable à un changement de structure de la loi 1905, mais je ne suis pas très inquiète là-dessus. Je pense que ponctuellement, il pourrait y avoir quelques atteintes. Je crois que cette charte de paix civile dont j'ai parlé, qui va très au-delà, c'est une charte non écrite, c'est un nouveau concordat en vérité avec le Vatican. C'est ça, la loi entre 1905, 1907 et 1923, l'avis par lequel le Conseil d'État rend la paix, qui était assez voilà, c'est un pacte laïque, tout à fait. Je n'hésite pas à le dire, c'est une charte avec la puissance dominante, la puissance qui a servicé les consciences dans nos campagnes, qui était, je suis désolée d'avoir à le dire, l'Église catholique. Et il se trouve que ça a marché. Ça a été difficile. Si vous regardez la jurisprudence du Conseil d'État, vous avez, dans les années 30, vous avez ça de jurisprudence sur les sonneries de cloches, les professions, les statuts des curés. Vous avez, et puis tout d'un coup, ça se dégonfle et vous n'avez plus rien jusqu'à l'affaire du foulard. Donc, pourquoi ? Oui, passer les concours. Si, vous avez quand même quelque chose, c'est l'affaire du financement de l'enseignement privé. Et je suis tout à fait d'accord, c'est vous, je crois, qui avez parlé de la loi 2004, dite amendement Charras. Oui, parce que Charras a voulu protéger les communes contre la laïcité. C'est ça le fond de l'affaire. On a d'abord dit que c'était une erreur, en réalité ce n'est pas une erreur. Et effectivement, cet amendement Charras, maintenant introduit au Code de l'éducation, est tout à fait scandaleux. Je suis entièrement de votre avis. Voilà, donc j'ai, j'ai, je crois qu'à ce stade, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je crois que organiser dans la sphère publique une sorte d'espace privilégié d'expression des religions et des courants spirituels est une chose dangereuse. Je crois qu'il est très bien que la sphère publique soit indifférente. Vous voyez, c'était aussi la position de Montalembert. Il disait l'Église chez elle, l'État chez lui. Et que tout ce qui touche à l'Église appartient à la sphère privée de la conscience, je crois que c'est une très bonne chose et qu'on ferait bien d'y regarder à deux fois avant de modifier ce qui n'est plus la loi, le cadre juridique, mais le modèle, le substrat culturel sur lequel nous vivons, notamment depuis 1905. Voilà mon sentiment.
Très bien, merci beaucoup. Un exposé qui est très clair, très précis. Donc l'État doit être indifférent à nos différences. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Jean-François Mattei? Vous pensez là que Sarkozy a fait une avancée qui est intéressante par rapport à la donnée, aux données d'aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez qu'on est dans l'hérésie vis-à-vis du concept laïque français?